Radio Foot International, Sarah Loubacouche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez bien Radio Foot International sans Madame Annie, mais dans un studio rempli d'étoiles comme d'habitude. Notre programme du jour est lui aussi cousu d'étoiles, celle de la Ligue des Champions évidemment. Avec les quarts de finale aller, deux belles rencontres au programme ce soir, PSG-Barça, Atlético-Dortmund. On passera en revue tous les enjeux de ces belles affiches. Étoilées, les rencontres d'hier l'été aussi, comme cet incroyable Real City. Un match nul, oui, mais chargé en intensité, on va revenir dessus en détail. D'une belle compétition à une autre, nous finirons cette émission avec les Jeux Olympiques et son tournoi de football féminin. On connaît les deux nations africaines qui vont y prendre part, la Zambie et le Nigeria. Pour décrypter tout ça, eh bien, je suis accompagnée d'étoiles dans ce studio, n'est-ce pas, Eric Ravessandratana, bonjour.
J'espérais bien que vous commenciez par moi. Donc,
mais oui, effectivement, il y a des étoiles ici. Vous êtes l'étoile la plus brillante
de ce studio. Bonjour Sarah Lou, bonjour à tous.
Philippe Duchesne, vous aussi, vous brillez très fort. Bonjour Philippe.
Ludovic.
Excusez-moi.
Non, Philippe, non, j'ai pas en plus de cousin.
Vous avez une tête de Philippe, voilà. Je vous appellerai Philippe en tout reste de l'émission.
Je vais quand même t'appeler Sarah Lou. Salut, très content de t'avoir et bonjour à toutes et à tous.
Merci, merci Philippe. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça va ?
Parfaitement, je me demandais quel nom d'étoile on pouvait avoir. Je me disais peut-être la Grande Ourse.
Oui, il n'y en a pas une qui s'appelle la casserole.
La Cassiopée, non ? Il n'y a pas quelque chose comme ça ?
Casserole.
Pas
la
Cassiopée,
la petite casserole.
La petite casserole.
Cassiopée, ouais.
Cédric De Oliveira du service des sports est avec nous également. Bonjour Cédric.
Bonjour Sarah.
Si vous étiez une constellation, vous seriez quoi ?
Je serais, c'est difficile à répondre, je suis très très
l'olivette,
mauvais en astronomie.
La petite,
oui,
olive.
La petite olive, si vous voulez.
Formidable. Un trio lumineux est à la préparation et aux manettes de cette émission. David Finzel et Pierre-Olivier Guérin. Mathieu Degueldre est à la réalisation sonore de cette émission. Allez, Radio Foot, le coup d'envoi, c'est maintenant.
Le Barça, c'est toujours une équipe historique, toujours une équipe à respecter.
Terminé sur une copie parfaite, une équipe de Titi Parisien. Donnez la leçon au quintuple champion d'Europe, le Barça de la MSN.
C'est du Roberto. Incroyable. 6-1 pour le Barça. Paris est éliminé. Messieurs, dames, envie de pleurer parce que ce n'est pas normal. Comment
le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain.
Ça, c'est fini.
Qui pouvait raisonnablement imaginer
ce soir, un quart de finale aller alléchant en Ligue des Champions, PSG-Barcelone, un petit air qui sonne très faux dans la tête des supporters de Paris et qui fait bien sourire les Catalans. Le double champion de France en titre va tenter de rallier le dernier carré de la compétition pour la première fois en 3 ans. Une rencontre qui ne sera pas évidente puisque les Blaugrana ont repris confiance ces dernières semaines. Cette rencontre, vous pourrez la suivre à l'écoute de RFI. Nous aurons un envoyé spécial en direct du Parc des Princes en la personne de Cédric De Oliveira qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio avant d'aller au parc. Bonjour Cédric.
Bonjour Sarah Lou.
Rebonjour d'ailleurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec l'équipe de Radio Foot, on a décidé de vous lancer un petit défi. Interdiction pour vous de prononcer le nom de Kylian Mbappé pendant cette émission. Est-ce que vous relevez le challenge puisqu'on sait que vous êtes un petit peu...
Allons-y, vous avez quelque chose contre lui ou contre moi ou Allons-y.
Bon, on va dire contre vous, puisqu'on prend pas parti.
Allons-y,
parlons du
numéro 7, voilà. Parlons du numéro 7, qui n'a pas l'habitude en plus de briller sur le terrain, donc ça va être pratique.
D'accord, oh là là, je vous sens taquin Cédric. Avant de parler jeu, on va être obligé de mentionner quand même les conditions dans lesquelles vont se dérouler ce match. Un match placé sous très haute sécurité après des menaces terroristes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Cédric, ce dispositif de sécurité, il vous semble impressionnant ou pas vous, puisque vous êtes un habitué du Parc des Princes?
En tout cas, effectivement, après les menaces de l'État islamique, le dispositif a été un petit peu renforcé. Alors, on nous annonce 7 unités de force mobile à la place de 4 habituellement. Une unité, c'est entre 80 et 100 policiers. On nous annonce aussi des patrouilles visibles, un peu pour dissuader de potentiels assaillants. 1500 stadiers seront aussi présents pour cette rencontre et les contrôles devraient être un peu plus poussés que d'habitude. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est que, il y a quelques instants, Prisca Thévenot, qui est la porte-parole du gouvernement, a annoncé qu'il n'y avait pas de menace avérée d'attentat. Peut-être un peu moins d'inquiétude que prévu. En tout cas, il y aura un dispositif qui sera plus poussé que d'habitude pour ce match. On va rappeler quand même qu'hier à Londres et à Madrid, tout s'est bien passé.
On espère que vous n'aurez pas trop de mal à rentrer dans le Parc des Princes. On peut parler terrain à présent, si ça vous va. Le FC Barcelone, donc l'un des némésis du club parisien en Ligue des Champions depuis maintenant plusieurs années. Impossible hein, de ne pas mentionner la célèbre remontada de la saison 2016-2017 avec un Barça qui était commandé à l'époque par Luis Enrique, qui aujourd'hui encore pense incarner davantage le Barça que Xavi. On l'écoute.
C'est moi, sans aucun doute. Non, pas du tout. Ce n'est pas une opinion. Regardez les données sur la possession de balles, sur les occasions de but, sur le pressing haut. Regardez le nombre de titres et de trophées. Vous avez tout ça dans les données. Ça ne fait aucun doute. C'est moi qui représente le mieux l'esprit catalan. Évidemment, on peut avoir une opinion différente, mais non, soyons sérieux, c'est moi.
Luis Enrique, actuellement entraîneur du club parisien. Ludovic, en quoi son histoire catalane, en quoi aussi la remontada historique qu'il a vécue et menée, peuvent entraîner, influencer sa vision du jeu ce soir, son rapport au match qui va avoir lieu au Parc.
J'ai failli dire, c'est parce qu'il a joué au Real Madrid, mais bon, ça c'est encore autre chose. Non, on entend sa modestie.
Légendaire,
qu'on le reconnaît tout de suite. Hein, voilà. Après, qu'il ait tort ou raison, peu importe. Qu'ils connaissent le Barça par cœur, oui, forcément, comme Guardiola, comme Arteta, comme Xavi, il a tout gagné avec le Barça. Donc, je ne sais pas, oui, c'est un avantage peut-être. Aujourd'hui, il a un autre effectif et il essaye de le faire à sa manière. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'effectivement, ce club n'a aucun secret pour lui. Après, c'est notre époque, c'est Xavi, c'est d'autres joueurs. Mmh. Voilà, je pense que c'est un autre contexte et je pense qu'il doit s'intéresser avant tout à son équipe. Et d'ailleurs, c'est sa manière de faire. Donc, ça ne peut pas être un handicap, en tout cas, que ce soit Luis Enrique qui soit de l'autre côté du banc et qui s'occupe du Paris Saint-Germain ce soir.
Vous êtes d'accord, Cédric, c'est un avantage pour les Parisiens d'avoir un entraîneur comme Luis Enrique pour la rencontre de ce soir?
Bah, en tout cas, c'est un grand entraîneur. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, mais ce qui est un peu bizarre avec Luis Enrique, voilà, il a toujours besoin de faire ses petites phrases. Et puis, on a l'impression qu'avec le Barça, oui, il y a toujours un rapport particulier. C'est presque comme... il est un peu catalan d'adoption, Luis Enrique, comme disait Ludovic, il avait joué au Real Madrid, donc c'est comme si il avait besoin de plus prouver encore que voilà, il était plus barcelonais que Guardiola et compagnie. Mais oui, c'est sûr, pour revenir sur le PSG, ça reste un atout, c'est quelqu'un qui sait gagner ce genre de trophée. Quand on voit l'entraîneur qui était là la saison passée, Christophe Galtier, bon, c'était pas forcément le même standing, en tout cas tactiquement et sur ce qu'il propose pour l'instant dans cette compétition. Oui, forcément, c'est quelqu'un en tout cas qui a forcément très très bien préparé cette rencontre et qui sait comment jouer le Barça.
Cette rivalité entre les deux clubs, elle s'alimente hein, avec humour jour après jour, juste après le tirage pour ces quarts de finale. Le Barça a chambré Paris assez allègrement sur Twitter. Il y a deux jours, le club catalan a encore publié un montage qui montrait une montgolfière qui s'élevait dans les airs juste devant la Tour Eiffel. La remontada, elle a cristalliser des tensions entre ces deux clubs. Donc forcément, un PSG-Barça en quart de Ligue des Champions, même si ce n'est que le match aller, est-ce que ça reste, Nabil, une rencontre chargée en émotions, davantage peut-être pour les supporters que pour les joueurs?
Bah, ça reste quand même un adversaire qui s'inscrit maintenant comme étant un des principaux adversaires du Paris Saint-Germain sur différents terrains. Sur le terrain, vous l'avez rappelé avec cette histoire de remontada, mais quand on cherche un peu dans le passé, il y a quand même une finale aussi entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour une coupe européenne.
Des coupes,
ouais. Ouais, plus récemment, le Paris Saint-Germain a un peu exorcisé son mal avec Messi et Navas, notamment, en éliminant le FC Barcelone. Et puis, il y a une guerre économique, en fait. Pour moi, en fait, c'est un rival économique. Le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont été débauchés, des joueurs qu'on n'imaginait pas une seule seconde partir du FC Barcelone. Je pense à Neymar, je pense à Messi. Qui aurait pu imaginer une seule seconde Messi quitter la camiseta? C'est ce comme on dit en espagnol, je me tente, hein, le maillot, quoi.
Très bien.
Qui aurait pu imaginer...
Non, mais c'est bien, il faut pratiquer un petit peu, c'est fait pour ça, oui.
Qui aurait pu imaginer Messi avec un autre maillot que celui du FC Barcelone? Pas moi. Peut-être celui d'un club argentin en fin de carrière, c'est ce qu'on pouvait se dire il y a quelques saisons, mais il a porté le maillot du PSG. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, Messi, Neymar, c'est deux tiers de la MSN, une séquence forte du FC Barcelone, c'est des butins de guerre presque. Donc le Paris Saint-Germain est devenu un rival économique de la Liga et du FC Barcelone, principalement. Maintenant, au musée, Barcelone est quand même devant, c'est 5 Ligues des Champions, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
c'est ça.
5-0.
Ouais, 5-0. Ouais, 5-0. Et le Paris Saint-Germain, si au classement des clubs qui vendent le plus de maillots au monde et qui ont le plus d'attractivité, ils sont dans le top 10, au niveau des trophées, bah, c'est toujours vierge.
Ce match, il arrive ce soir alors que les Catalans semblent bien motivés comme jamais. Plusieurs gros retours à prévoir ce soir. Normalement, le groupe, il s'est renforcé défensivement ces dernières semaines. Il a réussi à se reconstruire aussi, il l'a prouvé. Non pas une reconstruction, non pas autour de grandes stars, mais avec des pépites locales issues de la Masia, comme le très fort Lamine Yamal, par exemple. Est-ce que ça peut, Cédric, ce soir, transcender le jeu barcelonais?
Alors, transcender, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que Nabil parlait de guerre économique. C'est sûr que les courbes se sont un petit peu inversées. Le Barça est en reconstruction depuis plusieurs saisons. Ils ont un stade à reconstruire. Ils ont eu beaucoup de dettes. Et forcément, on parlait de Messi aussi qui n'a pas pu être conservé. C'est parce qu'il y a moins d'argent. Et ils ne pouvaient pas payer forcément son salaire, les Catalans. Donc, ils ont essayé de reconstruire avec ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire la Masia. Là, je crois que c'est 10 joueurs formés à la Masia qui font partie de l'effectif professionnel. Et vous parliez de Lamine Yamal, mais il y a aussi donc Pau Cubarsí, le défenseur qui a 17 ans et qui lui a été lancé par Xavi en janvier. Depuis, le Barça gagne, ou en tout cas s'est solidifié effectivement, en tout cas se montre plus solide sur le terrain. Il y a aussi Gavi, Pedri, même si Pedri est blessé depuis un petit moment. Voilà, c'est en tout cas, on essaye de mettre l'accent là-dessus parce que en fait, il n'y a pas plus fort que Lamine Yamal aujourd'hui pour être titulaire sur le côté de l'attaque depuis que Dembélé est parti.
Oui, je pense même que les courbes se sont un peu inversées, en tout cas au niveau économique. Et qu'aujourd'hui, par exemple, le Barça ne peut pas se payer Mbappé. Moi, je peux le citer, Mbappé, ça, j'ai le droit.
Oui, vous avez le droit. Non, c'est juste Cédric qui se fait visiter aujourd'hui.
Donc voilà, je pense que c'est la grosse différence aujourd'hui, c'est que le Barça ne peut pas acheter qui veut. Le Paris Saint-Germain peut le faire, le Real Madrid, Manchester City peuvent le faire. Le Barça est en reconstruction à ce niveau-là.
Finalement, ça les oblige à mettre en place une stratégie que Paris devrait peut-être envisager parfois, non ?
Alors, ils ont en tout cas un centre de formation qui est reconnu depuis énormément d'années. Ouais. Mais c'est vrai que d'ailleurs, il y a beaucoup de Parisiens qui intéressaient le Barça dans le passé. Marquinhos, Verratti, etc. Ils ont tout fait pour les avoir. Et dans cette petite guéguerre-là, je pense que le Paris Saint-Germain s'en est très très bien sorti. Maintenant, ce soir, c'est le terrain qui nous intéresse. Et ce qu'on a envie, c'est que Paris passe surtout.
Eric Rabé Sandratana, vous pensez que les Catalans ont de quoi faire un peu peur à Paris quand même ce soir ?
Ils sont mieux depuis la fin janvier, donc ça va quand même beaucoup mieux. Ils sont invaincus depuis 11 matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc il faut respecter cette équipe du Barça. Elle a été, comme vous le disiez, elle a été obligée de changer un peu de stratégie et de s'appuyer sur de faire de la stratégie de j'ai envie de dire de pauvre, parce que c'est vrai, quand on va chercher les joueurs,
c'est du mépris de classe.
Mais quand on va chercher les joueurs au centre de formation et qu'on n'a pas trop de choix, et on retrouve un petit peu d'humilité, et du coup on voit des joueurs émerger peut-être plus facilement qu'à une autre époque. Donc c'est bien, mais après il va falloir les respecter quand même, parce que c'est une très bonne équipe.
Après, ils sont très forts, on parlait de Lamine Yamal quand même, à 16 ans il a toujours son appareil dentaire, ce qui est un peu particulier de le voir sur le terrain, mais c'est un adolescent.
C'est
surprenant, il a une allure quand même très juvénile, et pourtant il joue parfois avec une maturité assez incroyable. C'est 6 buts, 7 passes décisives cette saison. En 40 matchs, déjà 40 matchs quand même pour un gamin de 16 ans. Cubarsí, on en parlait, il a en tout cas dégage aussi cette assurance, et c'est quand même deux joueurs qui ont été sélectionnés par la Roja et vont probablement faire l'Euro. Ça reste assez impressionnant pour des joueurs d'un si jeune âge.
Après, les jeunes comme ça, il y a aussi un risque avec, c'est qu'il y a une forme de surmenage qui est Pedri. Fait. Pedri est blessé. Oui, par le passé, il y a eu un autre joueur dans le même profil, Ansu Fati, blessé, qui est parti du côté de Brighton. Ouais. Alors Yamal, il me fait évidemment forte impression. Il y a un peu de maraise chez lui dans sa manière de jouer. C'est vrai que c'est un joueur qui provoque beaucoup de déséquilibre. Mais maintenant, faire reposer tous les espoirs sur un gamin de 16 ans pour un match à l'extérieur du côté du Paris Saint-Germain, moi, ça me paraît un peu trop. On oublie peut-être également qu'ils ont, même s'ils n'ont plus autant d'argent, qu'ils ne peuvent plus s'aligner face à des gros clubs de Première Ligue, ils ont quand même Lewandowski, dont on n'a pas cité le nom depuis le début. Peut-être que c'était aussi un challenge. Parce que c'était aussi le nom de Lewandowski.
Il y a Gundogan aussi. Je sais pas,
Gundogan, mais Lewandowski...
C'est un challenge, vous venez de briser le...
De voilà. Jong,
exactement. Le challenge. C'est pas les règles du jeu.
Lewandowski n'a pas été ballon d'or, mais il a été niveau ballon d'or.
Ouais, ouais, ça, il aurait même pu l'avoir.
Et vous avez raison de parler de ce joueur qui apporte l'obsession du contrôle, qu'adore Xavi, qu'adore Luis Enrique, qui est Gundogan. Donc, alors, je veux bien qu'il y ait des jeunes... Mais il y a quand même quelques valeurs.
Bien sûr, mais évidemment.
Ter Stegen, Gundogan, Lewandowski.
Ter Stegen qui est le seul à avoir été là, d'ailleurs, pendant la remontada. Il était là en 2017.
D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez...
On ne voulait pas vous heurter, Nabil.
Ah non, mais moi, vous savez, je suis très tranquille. J'espère pas un coup de clim ce soir pour le Paris Saint-Germain.
Non, ouais, Sarah, pour reprendre ce que tu disais, moi, ce qui devrait m'inquiéter quand je vois le Barça, c'est sa défense. Je trouve que... Arojo, Pau Cubarsí, bah, alors qu'à 17 ans qu'on annonce qu'on a un phénomène, mais il n'a que 17 ans, je trouve qu'il a joué un match de Ligue des Champions, donc je pense que du côté de Luis Enrique, on a forcément noté qu'il n'a pas d'expérience et qu'il va falloir appuyer là où ça fait mal, et que Koundé à droite, on le voit en équipe de France, n'est pas un latéral droit, et que je pense que ça peut faire très très mal avec Mbappé.
Numéro 7 parisien.
Voilà. Donc après, de l'autre côté, ça va être très équilibré entre Cancelo et Dembélé, mais c'est vrai que cette défense là, moi, ne m'inspire pas confiance.
Cancelo, je crois qu'il défend aussi bien que moi, non, Eric?
Non, ça me tient. Mais Dembélé est un morceau cette année, en fait. Même s'il est très maladroit dans la fin de ses actions, avant ça, dans les décalages et dans la percussion, il est incroyable, Dembélé. Salut.
Après, il va peut-être jouer sur un côté, Dembélé. Hein.
Oui, peut-être en
plus. Ouais.
On vient justement à l'effectif parisien. On attend. Vous vous en doutez, un joueur au tournant, c'est Kylian Mbappé, qui avait été héros de cette double confrontation il y a 3 ans. 4 buts, dont 3 au Camp Nou. Il sait qu'il devra réaliser une performance de taille pour peut-être emmener ses troupes dans le dernier carré de la compétition. Est-ce que les attentes, elles ne sont pas un peu trop élevées concernant le natif de Bondy, Eric?
Jamais.
Jamais. Bon,
non, après, lui, il a tellement l'habitude de supporter ça qu'il n'y a pas d'attente trop élevée. Il l'a dit lui-même, il dit c'est un match pour les grands joueurs, je suis prêt. Donc ça vous donne un peu le ton. Mais c'est vrai, franchement, lui, il aime ça. Alors,
il aime l'odeur du sang.
Voilà, exactement. Il a envie de briller, il a envie de se dire qu'il y a quand même un parcours qui a été un peu allégé avec ce tirage pour le Paris Saint-Germain. Donc si Mbappé n'est pas motivé pour faire la différence sur ces matchs qui arrivent, franchement, ça m'étonnerait. Donc non, vraiment... Mais il y a un collectif derrière Mbappé aussi.
Bien
c'est
sûr.
Ça qu'il faut comprendre, qu'il y a un changement dans le travail d'Enrique. Et du coup, il a vraiment bien bossé depuis le début de saison.
Oui, quel changement d'ailleurs? Il s'est attelé à construire un véritable collectif.
Lui, il a construit une équipe, il a construit des joueurs qui étaient tous concernés. C'est ce qu'il y a de plus dur pour un entraîneur, c'est de concerner tout le monde. Et en fait, avec ce roulement qui n'a pas forcément plu à tout le monde, et ben derrière, aujourd'hui, tout le monde a joué. Tout le monde a eu son temps de jeu, à part Mukiele. Mais sinon, tout le monde a eu son temps de jeu. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à jouer. Alors que d'habitude, dans ces moments-là, à cette période de la saison, on a toujours 2-3 blessés importants pour jouer ces matchs.
On va continuer à parler de Mbappé, évidemment. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Eric, eh bien oui, Mbappé, il n'est pas seul. Et le fait qu'on ramène tout à lui, ça peut agacer certaines personnes, certains entraîneurs, à l'image de Xavi.
Mbappé, Dembélé.
Surveillez Mbappé, oui, on va le faire, mais comme avec Dembélé, Colomboigny, Vitinha et toute l'équipe du PSG, bien sûr que le buteur c'est Mbappé. Il faudra donc être plus fort que jamais en défense, particulièrement vigilant, être agressif et surtout faire attention à leur transition, car Paris est sans doute l'une des meilleures équipes du monde dans ce domaine actuellement. Il faudra être brillant sur cet aspect.
Alors oui, Cédric, l'efficacité de l'attaque parisienne, elle ne repose pas uniquement sur Kylian Mbappé.
Elle repose pas uniquement, mais quand même en grande partie sur lui. C'est 39 buts et 9 passes décisives en 40 matchs. Il a aussi mis 6 buts et 6 passes décisives avec le maillot de l'équipe de France, le capitaine des Bleus. Ça reste quand même quelqu'un. Enfin, quelqu'un. Enfin, je veux dire, il y a même pas photo. Il a une telle aura sur son équipe et surtout sur les adversaires.
Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous en parlez.
Oui, toujours, toujours. Mais non, mais ça reste. Enfin, voilà, pour rejoindre ce que disait Eric, c'est un phénomène, ça va être une perte immense pour le Paris Saint-Germain quand il va s'en aller, mais voilà, il l'a montré contre la Real Sociedad, il a marqué à l'aller, il a marqué ce doublé aussi au retour, et puis ce sera un des enjeux effectivement face à la défense barcelonaise, mais il risque déjà de faire reculer cette équipe. Et puis, alors après, effectivement, il y a des joueurs autour de lui qui sont pas maladroits. Mais je pense quand même que c'est la grosse différence entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.
Évidemment, mais ce soir, peut-être qu'on pourra aussi admirer l'efficacité d'un Dembélé ou d'un Kolo Muani qui ont su faire leurs preuves récemment, Ludovic.
Alors récemment, c'est embêtant parce que Dembélé est extrêmement maladroit depuis le début de saison. Il a beaucoup de qualités. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense que, comme le dit Luis Enrique, c'est l'un des plus grands dribbleurs et déstabilisateurs. Je ne sais pas si ça se dit, ça.
Ouais,
ça
on va dire ça se dit.
On ouais, peut le dire, on prend. Ouais. Au monde, tout simplement. Donc là-dessus, on peut compter sur lui. Après, quand il s'agit de marquer, je pense que là, Mbappé se retrouve un peu seul, puisque si on compte sur Lee, ça peut lui arriver, hein, ce n'est pas le souci. Ouais. Ou Dembélé, ou le milieu de terrain. On va, Vitinha est très
Ramos,
adroit.
Le deuxième est Ramos.
Voilà, et a priori, il ne jouera pas. Kolo Muani, lui aussi, sera sur le banc. Donc oui, la grosse différence, je trouve, dans cette équipe, même s'il y a un collectif, je rejoins Eric, c'est quand même pas la même chose avec ou sans Mbappé. On en parlera tout à l'heure, mais quand je voyais Manchester City, je me disais hier, qu'il y a Haaland ou pas, je trouve que ça ne change rien en fait.
C'est
pour
vrai.
Moi.
Mmh. Bah, surtout qu'en ce moment.
Ça ne fait pas de différence.
On en reparlera.
Il marquera tous ses buts, mais en fait, si on l'enlève, je pense que Guardiola en mettra un autre et on ne verra pas la différence. Au Paris Saint-Germain, je pense que c'est l'inverse. Le PSG ne peut pas faire sans Mbappé. Et compte aller le plus loin possible avec Mbappé. Et ce soir, ça peut être son dernier match européen avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Donc je pense qu'on peut s'attendre à un grand match de sa part.
Il y a une absence ce soir qui pourrait peut-être peser sur le jeu parisien. C'est celle d'Achraf Hakimi. Alors Enrique doit hésiter probablement entre Zaïre Emery ou bien Marquinhos à la place d'Hakimi. Est-ce que cette absence,
le PSG risque de se faire éclipser.
Quelle pourrait être problématique, Nabil, cette absence?
Oui, elle est problématique parce que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain, notamment en début de saison. Il est parti ensuite à la CAN, ça a été un petit peu plus compliqué. Puis surtout, comme Eric le disait tout à l'heure, il a construit un collectif. Et un des axes forts pendant très longtemps de ce collectif, c'était le côté droit, avec Hakimi et Dembélé qui combinaient parfaitement. Hakimi qui venait parfois s'insérer comme milieu de terrain, un peu à la, comme le fait Guardiola avec Cancelo quand il était du côté de Manchester City. Il a réinventé un autre poste à Dembélé quand il a vu qu'Hakimi n'était plus là. Il l'a mis en faux neuf ou en milieu relayeur offensif, appelez ça comme vous voulez, en milieu hybride. Et l'international marocain, même si certains disent qu'il ne défend pas si bien que ça, je rappelle qu'il a quand même joué dans des équipes avec, était titulaire dans des équipes avec Antonio Conte comme coach du côté de l'Inter. Et souvent, ces joueurs-là qui sont contre-attaquants, ils n'ont pas des techniques de défenseurs à la Rudiger. Ils jouent sur d'autres qualités, la vitesse pour revenir notamment.
La technique
aussi. C'est un joueur aujourd'hui confirmé. Achraf Hakimi. Donc pour moi, oui, c'est une perte sèche du côté du Paris Saint-Germain. Et vous parliez de son remplaçant. Moi, pour l'instant, on ne sait pas. Ça peut être Zaïre Emery
il est disponible.
Moi, je pense surtout au joueur qui va être en face, quoi. Et ça devrait être qui, Rafinha, si je dis des bêtises.
A priori.
Il est faux pied à droite.
C'est fort possible que ce soit Rafinha, oui.
Ouais, Rafinha qui reste un client quand même.
C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'il va mettre un Zaïre Emery à droite. Je pense qu'il va plus se diriger sur un
avec
il faut un vrai défenseur.
Et l'impact que peut avoir Zaïre Emery aussi au milieu de terrain, qui est quand même assez précieux.
Cédric d'Oliveira, vous misez plutôt sur Marquinhos en remplaçant Hakimi.
En tout cas, c'est la tendance qui se dégage. Mais c'est vrai que Luis Enrique, qui a l'habitude de faire des... En plus, il aime bien faire des tentatives comme ça en Ligue des Champions. Il avait lancé Beraldo contre la Real Sociedad au match aller, qui avait beaucoup souffert face à Kubo. En tout cas, Marquinhos présente des garanties. C'est quand même quelqu'un qui a une expérience assez incroyable.
Il a commencé comme ça à la Roma. Donc voilà, s'il met solaire, c'est lunaire, hein, je vous le dis.
On va terminer sur ce jeu de mots. Merci.
J'ai aussi un autre nom pour désigner le numéro 7 du Paris Saint-Germain.
Je vous écoute.
Ça n'a pas été fait. Le futur joueur du Real Madrid. On pourrait le lire, ça, par exemple.
C'est vrai qu'on ne l'avait jamais entendu.
Mais quand même, vous vous projetez
vers l'avenir.
Vous avez des infos.
Il n'y a pas besoin d'avoir d'infos sur ce coup-là.
C'est dans votre petite boule de cristal, ça. On va peut-être laisser Cédric d'Oliveira tranquille, rejoindre le Parc des Princes, traverser les filets de sécurité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric. Oui, on vous retrouve à l'écoute de RFI, évidemment.
Bonne chance avec la sécurité.
Pour des points, oui. Pour des points complets sur cette rencontre. Évidemment, on vous retrouvera aussi, hein, Cédric. Ne partez pas si vite à 21h30, temps universel pour notre deuxième émission de Radio Foot. Avec grand plaisir, dit-il.
Oui. Et il a dit Mbappé, je l'ai entendu.
Oh, bah c'est bon, il a perdu. On en était sûr. Du soir, c'est Atlético Dortmund. Dortmund qui affronte ses quarts de finale dans un costume d'outsider. Mais est-ce qu'on peut vraiment les qualifier de petits poussés? Alors, vous ne me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains. Nabil, vous dites non fort de la tête.
Non, parce que c'est quand même une équipe. Alors déjà, je rappelle quand même, même si ça remonte, mais le poids de l'histoire, ça compte. C'est une équipe qui a déjà gagné la Ligue des Champions. C'est pas le cas de leur adversaire, là. Mmh. Je dis des bêtises, Atlético, ils l'ont déjà prise, non?
Non.
Ah, peut-être dans les années 60, non? Faudrait vérifier. Avant, ouais, je le ferai après l'émission. Mais non, je crois pas. Je crois pas. Ils ont pris la C3 avec Falcao et compagnie, mais dans mes souvenirs, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Donc, on va dire que Dortmund, c'est une équipe qui l'a déjà remporté, si je ne dis pas de bêtises, en 2013.
Peut-être. Ils ont gagné, ouais, ça c'est sûr.
Non, c'était avec contre la Juve 3-1.
97,
ouais, avec Thorsten Frings.
Ouais, dans les années.
Ouais. Au début des années 2000, contre la Juve 3-1, je crois. Quelque chose comme ça.
Absolument.
Donc bon, c'est une équipe qui a déjà une étoile sur son.
Je confirme, ils ne l'ont jamais gagné. Ils ont été finalistes plusieurs fois.
Bien ce que je pensais. C'est vrai qu'ils ont été un peu maudits, mais en tout cas, non, je ne les considère pas comme un petit poussé. Leur parcours, ils terminent quand même premier d'une poule avec Newcastle et le Paris Saint-Germain, dont on parlait il y a quelques instants. Sur le papier, même si c'est vrai qu'ils sont un peu en difficulté en Bundesliga, ils sous-performent par rapport à ce qu'ils pourraient faire en réalité. Ils le font plutôt bien en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui a quand même sorti le PSV Eindhoven le tour précédent. Si vous me dites ils jouent Manchester City, bon, je vous dis OK. Mmh. Mais là, ils jouent l'Atlético Madrid, qui est une équipe évidemment qui est coriace. Mais je pense quand même qu'il y a match et qui a assez d'expérience du côté de Dortmund pour être capable de répondre.
Mais côté Atlético, il y a un gros enjeu puisqu'ils n'avaient pas atteint ce stade-là de la compétition depuis 2017. C'est, vu leur parcours en championnat, c'est l'objectif de la saison pour les Madrilènes, cette Ligue des Champions.
C'est l'objectif d'une vie pour Diego Simeone.
Déjà, et puis là, ils sont quand même un peu en difficulté en championnat. Ouais. Ils sont quatrième et tout près de la cinquième place. Donc pour eux, cette compétition...
C'est l'Europe pour rien.
Nabil l'a dit, ça reste l'objectif d'une vie pour Diego Simeone. Mais de toute façon, ce club, c'est son ADN. Et ils ont sorti l'Inter avant. Grosse donc là, joue Dortmund. Mais je suis assez d'accord avec Nabil. Je pense que ça sera très équilibré. L'Atlético qui joue Dortmund ou le Real Madrid ou Manchester City, ça reste équilibré. Donc je pense qu'ils ne vont pas prendre cette équipe de haut parce qu'ils ont l'expérience de ces matchs de Coupe d'Europe. Mais c'est vrai que je leur donne quand même un avantage du fait de leur jeu, de leur saison qui est moyenne. Mais du coup, ils misent un peu tout quand même sur cette compétition, même s'il y a des joueurs comme Morata qui sont un peu dans le dur. Mais bon, il y a d'autres joueurs, il y a Griezmann, ils seront toujours présents. Et je trouve
formidable, c'était ma question.
Voilà. Mais Griezmann, évidemment, je pense que il peut faire toutes les différences.
Lui c'est le Mbappé de.
Il revient de blessure.
C'est lui qui est capable de changer des choses.
Il revient de blessure ce soir. Non, il jouera normalement ce soir. Et vous pensez, Eric, qu'il peut
ne pas être blessé.
Je sais pas s'il sera. Je sais pas s'il sera aligné d'entrée parce que. Par précaution, mais parce que
Griezmann, ils en ont besoin de pas y blesser.
Mais j'allais dire, il y a quand même le match retour qui est vachement important. Donc, est-ce que tu tentes le coup en disant
quand
tu
arrives quand tu arrives à ce moment-là de la saison, si tu le tentes pas maintenant, tu le tenteras.
Au risque de le perdre pour le match retour.
Non, il faut pas mettre sa santé en danger, mais je pense qu'ils peuvent prendre plus de risques sur ce match-là que s'ils jouaient Cadix à la 32e journée de la Liga, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Et attention quand même du côté de Dortmund, on ne l'a pas dit, il y a un homme qui est capable de déjouer tous les pronostics. Il l'a fait récemment à la CAN, c'est Sébastien Haller, ouais, l'Ivoirien.
Tout à fait.
Même s'il est plus titulaire, parce que Füllkrug est devant lui.
Oui, mais il fait un retour.
Mais c'est peut-être l'année à l'air, quoi, au niveau des trophées, quoi.
Et puis, il y a un autre, quand même, côté club espagnol, il y a un autre avantage, bien, c'est qu'il dispute ce match à domicile. Et on le sait, l'Atlético, eh bien, dans son stade, il y a une ambiance assez folle. Est-ce que ça peut transformer ça, la face d'un match, Eric?
À l'Atlético, ouais, je pense qu'il y a quand même un certain avantage de jouer à domicile. Faut rappeler aussi que on le dit pour le PSG, mais par rapport au tirage au sort, c'est un vrai avantage. Et il y a aussi une possibilité pour toutes les équipes de ce côté-là d'aller en finale, parce que il n'y a pas tous les vrais adversaires en face là. Donc du coup, on est optimiste. Non, mais c'est vrai, on est peut-être plus optimiste que si tu sais que tu vas jouer le Real le tour d'après ou le Manchester City. Donc il y a une
Bayern,
chance pour toutes ces équipes d'aller en finale. Donc et ça, c'est dans un coin de la tête aussi.
Ça joue donc ce soir en Ligue des Champions, mais ça jouait également hier soir. Ça jouait même très très fort sur la pelouse du Real Madrid.
Derrière le ballon, c'est Bernardo Silva. Oh, bravo, Silva ! Le coup d'œil incroyable de Bernardo Silva qui s'offre en ce quart de finale. City décide du scénario. Il y va avec une frappe de Portugal. Initiative remarquable. Rodrigo à toute allure. Rodrigo. Dans la frappe de Foden. Formidable Phil Foden. De partout. Ce City est un champion en réaction. Il peut tout se passer. De l'autre côté là.
Une marche impériale tirée de Star Wars, parce que c'est vrai que c'était un petit peu une guerre des étoiles qui se déroulait hier entre le Real Madrid et Manchester City. Un match nul, 3-3, mais un match de très très haute intensité. Une rencontre qui est un petit peu dans la lignée de cette histoire qui commence à s'écrire entre ces deux clubs en Ligue des Champions. Il y a 2 ans, City avait vu ses rêves de finale s'envoler dans ce même stade avec une victoire 3 en faveur du Real. L'an dernier, c'était City qui avait anesthésié les espoirs du Real. Alors, cette double rencontre, elle est empreinte de rancœur. Le scénario était complètement dingue. 3 buts marqués dans les 14 premières minutes du match. Et puis 3 autres buts en 14 minutes également dans la seconde période. Est-ce que, Nabil, cette affiche, c'est le nouveau gros choc, le nouveau classique européen, ce Real City?
En tout cas, c'est une rivalité qui est en train de maintenant s'installer entre effectivement, j'aime pas cette expression, mais un vieux monde et un nouveau monde. Vieux monde, encore que vous allez me dire, le Real Madrid,
ils sont pas mal, hein.
C'est quand même de la modernité. C'est de la modernité toujours aussi performante. Non, mais c'est deux histoires en fait qui se font face, et deux histoires aussi du football, entre d'un côté le spécialiste de la compétition, le plus grand club de l'histoire du football, le Real Madrid, et d'un autre côté ce nouveau riche Manchester City, pas forcément très aimé en Angleterre, mais qui est incarné par une qualité de jeu finalement qui compense finalement le fait que ça soit un club qui soit qui est pas forcément une histoire, un ADN incroyable, parce que avant de flamber en Premier League, ils avaient un seul trophée, c'était une FA Cup en 1969. Mais elle est incarnée par un style de jeu, elle est incarnée aussi par un entraîneur qui est Guardiola, parce que hier il y avait un duel, voilà, un peu d'histoire, mais il y avait aussi un duel de coach, Ancelotti.
C'était ce que j'allais dire tout à l'heure. Arrêtez de dire ce que je veux dire.
Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, excusez-moi d'anticiper. Ou alors, je suis peut-être prévisible.
C'est dingue.
Prévisible, visiblement.
Ouais. Non, mais... Donc, oui. Donc, c'est excitant. Je veux dire, il y a 10 ans ou 15 ans, on disait, ouais, il y a Manchester City contre le Real, t'en as rien à cirer.
Oui.
On te dit, il y a le Real Madrid contre la Juventus. Ah, tout de suite. Et là, maintenant, on dit, il y a Real Madrid-Juventus. Ouais, vite fait.
C'est un peu moins,
et on dit, il y a Real Madrid, Manchester City, bah, tu cours devant ton écran.
D'ailleurs, je vous propose, juste pour résumer un petit peu ce match, d'écouter l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, j'ai réussi à le dire, qui résume très bien le match qui s'est joué hier.
C'était un très bon match de notre part, équilibré et disputé. On a eu de l'énergie pour presser haut, pour gêner Manchester City, et on s'en est très bien sorti. Après, c'est vrai qu'on démarre mal. On prend ce premier but sur coup franc, mais l'équipe a bien joué. On a intercepté beaucoup de ballons et on a cherché les transitions. On voulait vraiment essayer de les gêner, même si en seconde période, ça a été un peu plus compliqué. On pouvait gagner et mettre le but du 3-1, mais ils ont inscrit deux buts superbes. On a trouvé les ressources pour égaliser. On a un petit désavantage car le retour est chez eux, mais on sera en confiance et on pense qu'on peut refaire le même match que ce soir.
Alors Eric, pour paraphraser Nabil Djellit, cette rencontre, c'était un choc tactique, un choc d'entraîneur également entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti.
Ouais, franchement, par rapport au niveau des équipes, l'expérience et tout ce qu'on a pu voir en termes de spectacle, c'était quasiment la finale qu'on attendait en fait. Derrière, voilà, l'opposition était tellement belle. Il y a eu plein de rebondissements dans ce match aussi, et puis la qualité. Et puis moi, franchement, j'étais pas certain de voir et d'être capable de voir un Real qui soit capable de hausser son niveau comme ça. Mmh. Parce que sur la saison, c'est une bonne équipe, mais c'est pas le Real qu'on a vu hier. Hier, ils ont été très forts. Il fallait vraiment être très très fort pour faire face à ce City.
Avec trois Français en plus.
Et là, ils ont haussé leur niveau. C'était incroyable dans l'intensité. Ce match a été une masterclass pour le football en tout cas.
Avec notamment certains joueurs qui se sont distingués côté Real. On peut peut-être applaudir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Ludovic, et la prestation d'Eduardo Camavinga qui a été assez monstrueuse.
Juste pour dire que je pense que ce genre de match, c'est le summum en fait. Oui. Moi, je vois pas de. Même en sélection, hein, c'est dur d'aller aussi haut. C'est vraiment le summum du foot. Je pense qu'on prend, nous tous, un plaisir infini à voir ce genre de prestations, cette opposition. Et il y aura un match retour. On va parler aussi de Bayern-Arsenal. Mais moi, alors pour parler de Camavinga, en voyant ce match hier, et je te dis un petit mot aussi de Ferland Mendy, mais je me dis, ça va être difficile de ne pas le mettre en équipe de France. Ça va être difficile de ne pas le mettre titulaire en équipe de France. Je trouve que c'est un joueur qu'on a vu débuter en France, à Rennes, etc. Mais qui a un talent fou, qui est jeune encore, qui est un jeune joueur, mais qui a absolument tout dans son jeu. Hier, il marque en plus, il a un peu de réussite, mais il va égaliser, ça fait un bien fou à son équipe. Mais vraiment, c'est un joueur top classe, dont à mon avis, on ne peut déjà pas se passer aujourd'hui. Et un petit mot sur Ferland Mendy aussi, dont je ne comprends pas. Je suis Didier Deschamps sur énormément de points, mais sur celui-là, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il n'est même pas dans le groupe équipe de France.
C'est pour d'autres raisons que du football, c'est comme la casette.
Si c'est ça, non,
mais parce qu'à chaque fois qu'il est venu en sélection, je crois qu'il était blessé.
Donc ouais, il y a eu
quelques doutes un peu sur son investissement ou son envie par rapport à d'autres. Et puis il fait aussi Deschamps, tu sais comment il fonctionne.
Bah, il fait pas de quartier, en fait.
Voilà,
avec le talent, il faut faire des quartiers. Ouais, parce que là, quand même, ne pas l'appeler
lui. Ouais, mais il n'est pas embêté à ce poste. Il est pas embêté.
À droite, si c'était à droite, il serait là.
Ah, bah, il serait là tous les jours. Mais même à gauche, je pense qu'il faut le prendre.
Ah, on va peut-être revenir en Ligue des Champions aussi.
Voilà, qui doit être. Non, mais pour reparler de Ferland Mendy, voilà, qui est vraiment un joueur pour moi qui, là aussi, doit faire partie de l'équipe de France. Après, voilà, Tchouaméni derrière, bon, il a eu un début difficile, mais c'est vrai que c'est...
Suspendu au retour. Hein.
Suspendu au retour. Plusieurs, quatre joueurs en tout suspendus.
Il ne faudra pas faire un Tchouaméni à ce moment-là.
Merci Nabil.
quand tu vois Kroos au milieu, qui est toujours un vrai régal, Modric, quand il rentre, c'est fantastique.
Il partage le temps maintenant, c'est bien.
C'est fantastique. Et devant, c'est vrai, quand on imagine devant, quand tu vois Vinicius, Rodrigo, Bellingham, et si tu rajoutes, pardon de le citer encore, Mbappé, c'est une équipe qui va faire très très peur.
Oui,
c'est sûr. Donc, je ne sais pas si c'est l'ancien monde Nabil, mais t'imagines, Nabil avec Mbappé l'année prochaine, et voilà, je n'ai même pas cité Valverde dans les quatre, là. Donc, non, c'est beau. Le foot à ce niveau-là, moi, je ne sais pas, tous les jours, j'en veux.
Côté City, on peut aussi souligner la performance de Phil Foden qui s'est réveillé en seconde période et qui a occupé cet espace laissé vacant par un Kevin De Bruyne absent. On avait très peur justement de l'absence du Belge. On se disait mais est-ce qu'ils vont y arriver, etc. Oui, a priori, il était malade, donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu jouer hier. Et bien Foden a réussi à occuper cet espace et a prouvé qu'on pouvait très bien se débrouiller sans De Bruyne, n'est-ce pas Nabil ?
Mais je pense qu'avec De Bruyne, ils auraient eu plus de chances de gagner quand même. Parce que...
Avec les deux,
ouais. Après, je sais pas, bon, on peut associer les deux, hein, ça a déjà été fait à plusieurs reprises. Après, ça dépend dans quel registre. Mais oui, vous avez raison, il a été décisif avec un but qui a marqué quand même les esprits. Il y a deux beaux buts hier, hein. Il y a celui de Valverde, là, sur le centre de Vinicius. Et celui de Foden, là, qui nettoie la lucarne.
Celui-là, il est incroyable.
Voilà, donc après, à vous de choisir celui que vous préférez. Mais c'est vrai.
Guardiola, il est pas mal quand même.
Guardiola, ouais, il est pas mal, c'est un beau but. Et puis, on s'y attendait pas de sa part. Il met pied droit, en plus.
C'est Nabil qui décide.
Il rate son contrôle et du coup, il est forcé.
Il rate son contrôle.
Sur les trois, franchement, moi, sur les trois, je pense que le plus difficile à mettre, ça reste celui de Valverde parce qu'il la claque d'une manière. Bon, voilà, enfin bref, ça ne dépend pas que de lui, en fait, parce que ça dépend aussi de la qualité du centre. Et Foden, oui, il avait réussi déjà un triplé contre Aston Villa, si je ne dis pas de bêtises. Il n'est pas loin d'être quasiment le meilleur joueur de la saison du côté de Manchester City. L'année dernière, c'était Bernardo Silva qui flambait, qui les avait portés vers le sacre. Et là, bah, ça sera peut-être Phil Foden, parce qu'il y a un match retour où il y a de fortes chances qu'il soit titulaire quand même.
Puis on va parler maintenant d'un présent qui était peut-être un petit peu absent. Je parle de ce cas complexe, celui d'Haaland, qui n'a pas brillé par son...
Sa présence,
son appétit offensif hier. Alors, est-ce que c'est une faiblesse de jeu ou est-ce que juste on n'est pas habitué à le voir jouer comme ça? Je vais y venir, parce qu'il peut être bon finalement dans ce jeu c'est sans ballon, en tant que point de fixation qui permet de libérer des espaces autour de lui. Alors, Ludovic, je vois que vous avez très envie de réagir. Il est en manque d'inspiration ou juste il est en train de développer un nouveau rôle sur le terrain?
Je ne sais pas, ce que je veux dire d'abord, parce que ça me paraît important et qu'on ne puisse pas se tromper, c'est un grand joueur. Voilà. Oui. Je veux quand même le dire parce que je l'ai un peu critiqué tout à l'heure, mais... Je trouve qu'il a touché deux ballons, voilà, ce chiffre-là, il est très important, dans la surface du Real. Et c'est vrai que dans ce genre de match, et on l'a vu en première ligue contre Arsenal ou contre Liverpool, il a une tendance à disparaître. Alors, est-ce que c'est sa faute à lui? Le problème, c'est qu'on ne pourra pas s'en rendre compte en sélection parce que la Norvège n'existe pas. Ou alors, est-ce que c'est le schéma de jeu qui fait que dans ce genre de partie, on va avoir plus Grealish, on va avoir plus Foden, on va avoir De Bruyne, on va avoir Bernardo Silva. Et c'est vrai qu'on ne voit pas, Haaland. Alors, je ne sais pas si c'est un mauvais choix de sa part d'avoir été, même s'il en rêvait, à Manchester City, mais dans ce genre de match, il disparaît. Et je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que je disais que s'il n'est pas là et qu'on le remplace par un autre joueur, dans ce genre de match, c'est vrai qu'on ne voit pas la différence. Donc, ça me fait de la peine pour lui parce qu'hier, il était plus spectateur qu'acteur. Et quand vous avez un tel niveau, quand t'es un tel joueur, il a fait deuxième, je crois, le dernier Ballon d'Or. Donc, voilà, c'est quand même triste de voir qu'il disparaît complet. C'est un peu l'inverse de Mbappé, pardon de revenir là-dessus, mais qui, sur les grands matchs, sur les matchs qui comptent, comme une finale de Coupe du Monde, le gars, il est toujours là. Le gars, il surperforme. Et j'ai l'impression qu'Haaland, là-dessus, il y a un petit blocage.
Eric, vous êtes d'accord? Haaland, grand dans les petits matchs, petit dans les grands matchs?
Alors, non, mais la première année, il a quand même carburé. Après, c'est sûr que cette année, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Pourquoi? C'est difficile à dire. Ça vient certainement des deux. C'est-à-dire que lui a du mal à confirmer, à enchaîner et puis à trouver sa place un peu parce que on a l'impression qu'il est un peu perdu, en fait. Le jeu évolue, ça arrive à un certain endroit du terrain, et après, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à coordonner leur déplacement et les passes. C'est assez surprenant, parce que c'est quand même la grande qualité de ce City. Donc, peut-être que c'est une passe, parce que ça arrive aussi. Que ça va se recollecter.
Et puis
peut-être que ce sera lui qui sera décisif sur les derniers matchs qui va rester sur la Ligue des Champions. Donc il faut rester prudent sur ce qu'on dit sur lui. Mais c'est vrai que c'est quand même très flagrant. Il est très flagrant d'absence dans l'importance du jeu du côté City.
Hier, on jouait en Angleterre également. Un match nul entre Arsenal et le Bayern de partout. Un match encore de haute intensité. On va en revenir en longueur dans l'émission de demain qui sera entièrement consacrée au bilan de ces quarts de finale aller. On a hâte de voir les matchs retour qui s'annoncent eux aussi très intenses. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, on quitte la Ligue des Champions et ses étoiles pour rejoindre une flamme qui, elle, est olympique. Les Jeux Olympiques et le tournoi de football féminin, 12 nations en tout sont qualifiées pour ce tournoi de foot. Les deux pays africains qui vont prendre part à ces Jeux sont à présent connus. Il s'agit de la Zambie et du Nigeria. On entend la liesse dans le vestiaire des Nigérianes après leur qualification. C'était face aux Sud-Africaines. Elles avaient emporté 1-0 à l'aller, puis avaient concédé le nul à Pretoria. Ça faisait 16 ans que le Nigeria, l'équipe féminine du Nigeria, n'avait pas disputé les Jeux Olympiques. D'où la joie de leur sélectionneur Randy Waldrum. Je vous propose de l'écouter.
Je suis très satisfait de ce que les joueuses ont accompli. C'est exactement ce que je leur avais demandé. Il fallait tenir le résultat acquis à l'aller pour passer. On savait que les Sud-Africaines viendraient nous presser. Nous les respectons beaucoup, nous connaissions leur qualité, mais nous avons tenu bon. Donc je me réjouis, y compris pour les supporters, parce que je sais ce que représente cette qualification pour eux et pour la fédération. D'autant que cela fait 16 ans que nous n'avons pas disputé les Jeux. Je suis ravi pour le peuple nigérien.
Cette qualification du Nigeria face aux Sud-Africaines, Ludovic, c'était logique ou plutôt surprenant ?
Non, enfin logique, ça a été extrêmement serré, hein. Ça s'est joué à un but finalement sur les matchs aller-retour. Moi j'avais eu la chance de les suivre pendant la dernière Coupe du Monde. C'est vrai que j'avais déjà adoré cette équipe, les Super Falcons comme on les appelle. Elles avaient été en huitième de finale et battues seulement au tir au but par l'Angleterre. Elles avaient même battu l'Australie chez elles. Donc ça avait été une super compétition pour les Nigérianes. Et non, c'est une super équipe. Après, l'Afrique du Sud est habituée aussi à jouer elles étaient à la Coupe du Monde, oui, de jouer de grandes compétitions. Donc c'était extrêmement serré. Mais c'est vrai qu'elles font la différence avec leur gardienne que l'on connaît bien, parce qu'elle joue au Paris FC, Nadosi. Et surtout Oshoala devant, qui est l'ancienne buteuse du Barça, qui est partie aux États-Unis. Mais elles ont un peu ce petit truc en plus qui fait que après une Coupe du Monde vraiment réussie, elles vont aux Jeux Olympiques et il va falloir s'en méfier. Le Nigeria, bon, je parle des garçons aussi, mais aux Jeux Olympiques a souvent bien réussi. Donc assez logique, pas illogique en tout cas, de les voir aux Jeux Olympiques.
En ce qui concerne la Zambie, la qualification était-elle acquise ou pas, Nabil ?
Pas du tout. On peut même parler presque d'un exploit, même si elles font coup double, elles y retournent. Au JO, donc elles avaient quand même des références, elles ont de la qualité. On a vu notamment leur attaquante, buteuse Banda, qui a été fantastique, qui a porté littéralement son équipe, mais elles avaient perdu à l'aller chez elles. On sait que le Maroc a mis beaucoup de moyens pour notamment briller chez les féminines. On a vu ce qu'elles ont fait à la dernière Coupe du Monde, elles avaient affronté l'équipe de France. Elles étaient sorties d'une poule extrêmement compliquée avec l'Allemagne, la Colombie.
La Corée du Sud.
Bon, elles avaient été surclassées par les Françaises, mais bon, elles s'étaient invitées à un niveau qu'on n'imaginait pas. C'est le coup d'arrêt.
Mais oui, c'est fou. Le coup d'arrêt. Mais comment on explique l'absence du Maroc dans ce tournoi
olympique ? Déjà, il y a un moment, il n'y a que deux nations participantes. C'est-à-dire que la densité des meilleures équipes, c'est-à-dire que là, vous jouez des demi-finales de Cannes, quoi. Quasiment, quoi. Donc, il y a un moment, il y a quand même des adversaires et elles ont été solides mentalement, les filles de Mouépé. Et puis le Maroc a raté le coche sur plusieurs situations. Et ensuite, je pense qu'elles se sont un peu liquéfiées parce que je pense qu'elles n'avaient pas programmé de se retrouver en prolongation, surtout quand vous gagnez à l'aller, quoi. Moi, ça me rappelle un peu Algérie-Cameroun chez les hommes. Vous gagnez au Cameroun.
Vous avez gagné 2 en Zambie.
Vous gagnez au Cameroun et puis au retour, vous dites que vous avez fait le plus dur. Je pense qu'il doit y avoir un aspect psychologique. Maintenant, c'est un coup d'arrêt, mais ça n'efface pas tous les progrès qui ont été faits du côté du Maroc. Maintenant, j'espère voir les nations africaines aller
performer.
Ouais, et les JO, je pense que c'est un format de compétition qui peut leur correspondre. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Ludovic.
Et en plus, les Marocaines avaient mis toute leur chance de leur côté parce qu'elles ont pris comme sélectionneur Jorge Vilda, qui est juste le champion du monde en titre avec l'Espagne. Donc, elles pensaient avoir fait peut-être le plus dur en prenant le sélectionneur qui était à la mode. C'est Renal Pedros qui les avait emmenés en huitième de finale. Donc, qui avait fait un super travail, Renal, l'ancien Nantais. Donc voilà, c'est, je pense, une vraie déception pour les Marocaines.
Oui, mais ça doit pas en fait briser la dynamique.
Non, bien sûr.
Et ça ne le sera pas.
Ce sera le mot de la fin, ce petit mot d'espoir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi dans ce studio pour débriefer la Ligue des Champions, pour parler de ce tournoi olympique de football. Radio Foot, c'est fini pour l'instant, mais pas d'inquiétude. On se retrouve à 21h10 avec Annie Gasnier, 21h10 temps universel, pour débriefer les 2 matchs de Ligue de Champions à l'affiche ce soir. En attendant, bonne fin de journée à l'écoute de RFI.